Bonjour Victor Guerra, bienvenue sur Psynem, à notre rubrique Psy et politique. Avec Philippe Metello, nous savons que vous êtes venu à Paris pour une semaine. Nous vous en remercions d'avoir gentiment accepté notre invitation pour parler de votre expérience, de votre travail en Uruguay et de vos impressions sur la psychologie de l'enfant afin d'enrichir notre rubrique et d'établir des parallélismes avec nos pratiques. Nous voudrions commencer par parler un peu de vous, de votre travail en Uruguay. Merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je suis psychologue, psychanalyste de l'Association psychanalytique de l'Uruguay. Depuis plusieurs années, je travaille dans le domaine de la petite enfance, surtout sur le plan de l'observation des bébés. Je fais des consultations thérapeutiques parents-jeunes enfants. Dans un premier temps, j'étais formée à l'observation et à l'analyse des relations mère-bébé en postpartum dans un hôpital public au sein d'une équipe multidisciplinaire qui m'a beaucoup appris sur ce grand énigme que représente la communication corporelle, non-verbale, rythmique. Après, j'ai fait une formation avec une psychanalyste, Mercedes Garbalino, fondatrice du travail psychanalytique avec des enfants. Nous utilisions beaucoup l'observation directe de Sterbik, qui a été fort importante pour moi. Parallèlement, nous avons aussi constitué un groupe de recherche à l'hôpital pédiatrique Pierre Roussel autour des mères de bébés présentant des troubles du sommeil. Il s'agissait d'un groupe de travail et d'intervention très intéressant. J'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années dans une crèche avec des enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Ce fut une grande expérience car j'ai pu inventer, mettre en place un dispositif de travail, appliquer les consultations thérapeutiques au sein de l'institution, soutenu par la directrice de la crèche. Cette expérience a été remarquable. J'ai été influencée par les lectures de Serge Lebovici, Bernard Gols et d'autres auteurs du champ psychanalytique français, ainsi que Bertrand Kramer, etc., qui m'ont aidé à penser comment mettre en place les consultations thérapeutiques. Parallèlement, peu à peu, en gagnant de l'expérience, j'ai formé des groupes d'études sur ce sujet en Uruguay et à Porto Alegre au Brésil. J'ai dirigé il y a 10 ans, et ce pendant 4-5 ans, un diplôme universitaire sur la clinique périnatale et les troubles des liens précoces organisé en France par Alberto Konicekis, professeur à Paris 5 actuellement. J'étais le coordonnateur à Montevideo et à Porto Alegre, il y avait un psychiatre très important, Monsieur Salvador Celia, aujourd'hui décédé. Ceci a contribué à établir un dialogue plus étroit avec des collègues français. Grâce à cette expérience, plusieurs d'entre eux sont venus à Montevideo pour faire des conférences. Par exemple, Sylvain Missonnier, Alberto Konicekis, Juliana Vamos, Epicler Loxi, Bernard Gols, Alberto Ciccone de Lyon et Myriam Bourrille aussi. C'est un dénominateur commun pour moi. Car j'étais fortement influencée par les apports d'auteurs français qui ont travaillé autour de la petite enfance, pour moi fondamentale. Avec Vida Mabrino de Prego, précurseur de la psychanalyse d'enfants en Uruguay, nous avons coordonné pendant plus de 10 ans un groupe d'études sur les écrits de Bernard Gols et d'autres auteurs français, dont Didier Houzel, Roussillon, etc. Nous lisions en français. C'est un sujet important, cela. Je dirais que la culture française a beaucoup influencé la naissance et le développement de la psychanalyse et de la pédopsychiatrie en Uruguay. Dans le champ psychanalytique, au cours des années 50, en Uruguay, les groupes psychanalytiques se forment avec l'arrivée de Buenos Aires, des Baracher, d'origine française, qui vivaient donc à Buenos Aires et qui sont arrivés à Montevideo sur la demande d'Enrique Pichon Rivière pour former un groupe de personnes constituant le premier noyau. D'autre part, dans le champ de la psychiatrie, le grand fondateur de la psychiatrie infantile en Uruguay a été le docteur Luis Enrique Plego Silva, qui avait une vaste formation qui faisait référence à certains éléments de la psychiatrie française et à Winnicott. En fait, il a introduit Winnicott en Uruguay et dans d'autres pays latino-américains. Le docteur Prego a eu un lien d'amitié avec Bernard Gols. Depuis, la psychiatrie infantile a changé. Je veux dire, de mon point de vue, il y a 10-15 ans, on lisait encore des auteurs français en français où on les faisait venir, etc. Mais cela a changé. Dans les dernières 10 années, il y a eu un facteur culturel, par exemple, enfin, à cause de la montée d'Internet, etc., la langue plus influente est l'anglais. Cela est un virage dans le domaine clinique et psychiatrique. La psychiatrie en Uruguay est plutôt influencée par le courant américain et moins par le courant français psychodynamique. Ceci fait que moins de personnes lisent maintenant des textes en français. Personnellement, comme je suis intéressée par cette tendance, je donne des cours à l'hôpital pédiatrique au sein d'une institution aussi qui s'appelle APIA, fondée par Prego Silva. Je fais un séminaire depuis des années sur la structuration psychique précoce de l'enfant et sur ce que j'appelle les troubles de la structuration archaïque. Comment faire face, comment penser les difficultés de subjectivation chez un jeune enfant. Comment apparaît un trouble de structuration archaïque chez un petit enfant avec des défenses autistiques, etc. C'est un séminaire que je fais depuis 3-4 ans, qui est ouvert. Bernard Gols a participé à deux reprises lorsqu'il est venu à Montevideo. Donc, avec d'autres collègues, nous nous intéressons à la littérature scientifique française. Quand je viens à Paris voir des amis, je profite pour faire le point sur des auteurs nouveaux, sur le matériel théorique, etc., afin de le ramener dans mon pays et en faire part, ainsi qu'à Porto Alegre où j'ai des groupes de travail et où les gens sont fort intéressés par ceci. Voici l'histoire de façon schématique de la formation et des influences théoriques dans le domaine de la petite enfance. Au cours des 5 dernières années, on a observé en Uruguay, au Brésil, au Chili, une augmentation des consultations pour ce qu'on appelle, à partir du DSM-4, les troubles envahissants du développement non spécifié. Il s'agit d'un enfant étrange qui a des signes proches de l'autisme. Mais qui n'est pas autiste. C'est un enfant étrange et donc il a un TED NOS.
Y lo que es muy sugerente pensar que, bueno, yo tengo cierta experiencia en eso, ¿no? Estoy hablando de niños infants y viajamos hacia la etimología.
Si on parle de l'infance sur un plan étymologique, infants qui ne parle pas, préfixe latin, in, et non, fans parler, des enfants qui n'ont pas acquis le langage, âgés de moins de 2 ans, de 3 ans, il faut penser plutôt utiliser un modèle de réflexion autre, comme celui du retrait relationnel énoncé par des auteurs comme André Carrel, ou bien celui des défenses autistiques, telles que les accrochages sensoriels, les angoisses et les difficultés dans la co-construction de l'intersubjectivité. Il faut construire un dispositif de travail avec l'enfant et ses parents, mettre en place une prise en charge psychomotrice, technique aussi d'influence française. Il y a un champ de travail en psychomotricité assez vaste à Montevideo, en Uruguay. Il y a une formation en psychomotricité dont l'origine est française. Il y a aussi une racine psychoanalytique dans cette formation.
Y hay sí una raíz, diríamos, psicoanalítica en la formación. Entonces, tú puedes encontrar.
Donc, vous pouvez trouver des psychomotriciens avec beaucoup d'expérience avec lesquels nous pouvons parler une même langue quand nous pensons la psychopathologie d'un enfant et de la famille. Dans ces cas-là, notre expérience nous a montré que le travail conjoint en thérapie psychanalytique et en psychomotricité contribue au processus de subjectivation, l'objectif principal finalement chez ces enfants. Dans mon expérience, lorsqu'on prend en charge des enfants de 2 ans, de 2 ans et demi, il est essentiel de travailler avec les parents, tout en respectant l'idée qu'un enfant peut avoir une prédisposition constitutionnelle, avoir une hypersensibilité sensorielle, par exemple, ou un certain retrait, des signes qui peuvent être d'origine biologique, je ne sais pas. Mais en travaillant avec les parents et en créant une résonance chez eux, nous obtenons des résultats très importants. Pour moi, cela évoque la fertilité de la théorie psychanalytique. Mais tout ce travail dont vous parlez nécessite la collaboration de différents professionnels. Ce que vous dites me semble important, à savoir que, quelle qu'elle soit la pathologie de l'enfant, on a besoin de différentes approches, de différentes thérapies. Les lieux d'accueil pour ces enfants sont aussi importants, car pour faire ce travail, il faut qu'on puisse se rencontrer. Qu'on puisse parler entre professionnels, ce qu'on appelle finalement la psychothérapie institutionnelle. Je ne sais pas si elle existe aussi en Uruguay. Je veux dire que l'environnement professionnel est important. Existe-t-il une réflexion en Uruguay à ce sujet? Votre question est très intéressante. Je vous ai parlé de cette expérience dans le privé, dans mon cabinet. L'expérience d'autres collègues qui le font aussi. On construit un réseau avec des personnes qui ont une affinité pour ce type de travail. Beaucoup de gens le font. Mais cette approche existe aussi dans quelques hôpitaux. Cela s'appelle, en Uruguay, un système mutualisé, qui donne parfois de bons résultats, mais qu'à mon avis n'est pas encore suffisamment organisé. Non. C'est un sujet économique, au fond. Le coût des séances, combien de temps travaillent les gens. Les personnes doivent prendre beaucoup de patients en charge pour pouvoir vivre. Surtout quand il y a une situation économique difficile. Il n'y a pas de temps pour coordonner. L'institution n'offre pas les conditions pour que l'équipe puisse travailler comme elle le souhaite. Ce que je questionne souvent. Il y a aussi les hôpitaux publics. C'est pareil, il y a des efforts pour le faire, mais il me semble qu'il n'y a pas encore suffisamment de moyens. Il y a encore du chemin à faire. Surtout vu de mon point de vue, de ma perspective psychanalytique. Je pense que cette possibilité de travail institutionnel doit prendre en compte la perspective psychanalytique qui tient à la fois compte de la multicausalité, de la structuration psychique de l'enfant et de l'adaptation au milieu extérieur. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la métapsychologie de la pulsion, rien d'autre. La psychanalyse s'occupe de l'appareil psychique. Et chez les enfants, notre objet d'étude est penser la subjectivation avec ses multiples éléments. En Uruguay, de mon point de vue, il faut encore consolider cette approche. Il y a aussi des aspects économiques qui gênent. Par exemple, les professeurs, les gens qui travaillent à l'hôpital ont des salaires très bas. Il y a des gens qui travaillent un temps, qui s'en vont. Dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi dans d'autres disciplines, ils n'en peuvent plus. Parce qu'il y a des cas lourds, des situations complexes, des limitations économiques de différents types, par exemple des limitations sur le plan des demandes d'avis hospitaliers. Pour moi, il reste vraiment beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'il y a, par exemple, des associations ou une mobilisation des parents, une envie de créer des structures en dehors des systèmes mutualisés publics?
Oui.
Et il y a une expérience très intéressante depuis quelques années. Les CAIF, Centres d'attention pour l'enfant et la famille, ce sont des centres répartis dans l'ensemble du pays, organisés par différents professionnels, dont des psychomotriciens comme Mme Cerruti, qui accueillent l'enfant et sa famille, qui vivent surtout dans des contextes de carence. Ce sont des lieux où on stimule le développement du lien. C'est une forme d'intervention thérapeutique où on privilégie la psychomotricité. Il y a peu de psychologues formés. Parfois, certains n'ont pas une formation spécifique petite enfance. Je participe à la formation de certains professionnels dans ce contexte. C'est une approche très intéressante et parfois, les expériences ont beaucoup d'impact, surtout dans les régions de l'intérieur du pays. Par exemple, cette année, je vais participer à partir d'un film sur la construction de la subjectivation. Je vais présenter les indices de l'intersubjectivité entre 0 et 1 an, c'est-à-dire quelle est la place acquise par l'autre dans le processus de structuration chez l'enfant, quels sont les jeux qui comptent, les types d'interactions impliquées, etc. C'est un projet soutenu par l'IPA, l'Association Psychanalytique Internationale. Donc je vais présenter ce projet dans quelques CAIF. Il y en a qui font un travail très méritant, très engagé. Il faudrait former davantage les intervenants à la clinique psychodynamique. C'est une structure intéressante avec des contradictions. Certaines structures travaillent mieux, mais ce sont des structures d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais quel est le problème? En fait, parfois les professionnels sont très jeunes, des psychomotriciens jeunes, diplômés, qui n'ont pas tous les outils pour faire face aux enjeux transférentiels. C'est une forme d'intervention. Mais le gouvernement de l'Uruguay a créé un plan qui s'appelle « L'Uruguay grandit avec toi ». Il s'agit d'une intervention à domicile pour des familles carencées ou en difficulté. Aller à la rencontre des gens afin de promouvoir l'attachement du point de vue de la théorie de l'attachement. par le biais de la stimulation, etc., comme un antidote au manque de régulation des affects, par exemple.
Comme un antidote frente à ce qui peut apparaître, comme vous le savez, l'impossibilité.
On commence avec ce plan. C'est un plan national qui, auquel je devrais participer en formant des intervenants. D'autre part, il existe aussi ce qu'on appelle l'INAO, c'est l'Institut d'attention à la petite enfance, qui est très grand, où sont placés les enfants abandonnés ou qui seront adoptés. Des enfants jeunes, des adolescents qui ont transgressé la loi. Il y a aussi des jardins d'enfants. Où sont intégrés des enfants de mères qui sont incarcérées. Donc cet institut offre ce service. Cette année, on est plusieurs collègues à avoir construit un groupe de formation pour les personnes qui travailleront dans ces jardins d'enfants. Nous avons rencontré des gens qui travaillent seuls, par exemple. En fait, cette structure n'a pas d'argent pour que chaque jardin d'enfants ait un psychologue ou un psychologue en formation qui accompagne les bébés, mais aussi l'équipe d'éducateurs avec les angoisses qui vont avec. On voulait parler, par exemple, de l'attachement, de la théorie de l'attachement, de l'intersubjectivité. À partir de Trevartain et de Gauls, mais les gens voulaient surtout parler de leur expérience, de ce qu'ils ressentaient. Mais on a dû improviser, on a rencontré une humanité, une capacité d'empathie remarquable. Nous avons donc changé la façon de travailler maintenant, c'est à partir de leur cas. C'est une sorte de supervision. Et dans ce domaine du travail social, les professionnels s'intéressent-ils pour l'approche psychanalytique? Parce que cela peut faire peur à certains. Je pense que c'est pareil qu'en France. Entre guillemets, la psychanalyse est en crise. Je pense que les critiques sont plus fortes ici qu'en Uruguay. D'après ce que j'ai vu et senti en étant ici. Là-bas, il n'y a pas d'attaque. Il y a une mise à distance. On suppose que nous, les psychanalystes, sommes des dinosaures. On parle de Freud, du 19e siècle, de Vienne, de la pulsion. C'est un autre siècle. Mais cela dépend aussi de nous. Personnellement, je participe à des conférences quand on m'invite. Par exemple, à Montevideo ou au sud du Brésil, je vois que cela résonne chez les gens. Cela dépend comment on transmet les choses. J'essaie de mettre les théories à la portée des gens pour qu'elles dialoguent avec eux, qu'elles ne restent pas enfermées dans la bibliothèque. Je dirais qu'il s'agit vraiment d'un nouveau défi pour nous. Je dirais qu'aujourd'hui, cela dépend plus de nous. Projeter le problème sur l'extérieur, c'est facile, c'est-à-dire dans la culture. La psychanalyse continue à être la peste, comme disait Freud. Maintenant, nous sommes plongés dans l'univoque du biologique. Les psychanalystes qui cherchons la complexité sont des sujets étranges. Mais attention, il ne faut pas se servir de cela et dire que le problème est dehors. Les temps actuels nous posent le défi de changer, de s'ouvrir à la théorie de l'attachement, par exemple, aux neurosciences, à la recherche, en gardant la perspective psychanalytique.
que me resultan interesantes. Pero yo digo que siempre
j'insiste sur le fait que la clinique est toujours de notre côté. C'est le point commun, en fait. Oui, comment nous pensons le matériel, comment le pensent d'autres personnes, comment pensons-nous la complexité de la vie psychique de l'enfant et de sa famille. Que peut-on faire? C'est une tâche passionnante. C'est un défi de retraduire nos théories pour les temps actuels.
De comment retraduire les théories nuestras à les temps actuels.
Ce qui ne veut pas dire du tout se soumettre à une théorie superficielle.
En prenant en compte ce que vous venez de dire, comment pourrait-on faire des liens entre la pratique psychiatrique et l'histoire récente de l'Uruguay?
La historia reciente o la sociología uruguaya actual, ¿qué vínculos establecería usted entre esos dos puntos?
Je dirais qu'il y a deux niveaux, un plutôt global et l'autre spécifique à l'Uruguay. Le plus global, certaines parties de la société uruguayenne ont une représentation de la parentalité proche de l'occidental, France, États-Unis, etc. Dominé par la difficulté, dominé par l'investissement important dans le travail, dominé par l'intérêt excessif pour la nouveauté et les objets technologiques qui risquent d'introduire une distance entre l'enfant et ses parents. Le culte de l'urgence, comme pointe des auteurs français en parlant de l'individu hypermoderne. Cette hypermodernité, ce culte de l'urgence et du renouveau permanent, traduit une recherche de complétude qui a des effets sur le lien. Cela touche un thème que je trouve passionnant, celui des rythmes. Les rythmes vitaux changent. Nous vivons une accélération vertigineuse des rythmes qui se répercute sur le lien et la temporalité, ce qui implique qu'il devient plus difficile d'entrer dans le temps du bébé. Je pense que c'est culturel. C'est plus difficile de rentrer dans son tempo, de tolérer ces va-et-vient entre progression, régression. Le développement du bébé, c'est un rythme entre développement et retourner vers la dépendance. Je pense qu'en Uruguay, comme dans d'autres pays, nous vivons une période de transition ou de changement où apparaissent des difficultés, voire des échecs dans l'intersubjectivité. Alors, il circule dans la société une représentation de la séparabilité précoce de l'enfant. Les parents cherchent à ce que leur enfant soit autonome, et ils privilégient narcissiquement des manifestations d'autonomie du bébé. C'est un des facteurs qui précipite l'hyperactivité, car il privilégie le mouvement dans l'espace à la capacité à se relaxer. D'être se relaxer et d'être calme. Il résulte un déphasage que j'observe très concrètement dans les crèches. Il y a quelques années, les enfants entraient en crèche et il y avait une période d'adaptation durant laquelle les professionnels accompagnaient le processus de séparation pour l'enfant et les parents. Ce processus réclamait plusieurs jours. Je dirais qu'aujourd'hui, la tendance générale est d'abolir cette transition. Il y a une résistance des parents qui veulent accélérer le processus. Cela prouve qu'il y a une autre temporalité. Les parents sont très fiers si leur enfant s'adapte. Par contre, s'il pleure, c'est totalement incompréhensible. Mais il a déjà 3 ans et il n'a jamais eu de problème pour se séparer, comme s'il avait déjà 8 ans. Ça, pour moi, c'est un facteur culturel très important, objet d'un travail avec les parents dans les consultations. C'est une de mes grandes interrogations. Quels sont les rythmes de cette famille? Comment s'arrange-t-il avec cette temporalité interne? Tendance au repli, des moments de calme avec le bébé, ou d'hyper-excitabilité de l'enfant, ou des troubles du sommeil du bébé, qui ont aussi à voir avec les rythmes. Voilà pour le général. Il y a quelque chose de plus spécifique en Uruguay que dans d'autres pays. Chez les petits, il y a une plus grande incidence des consultations pour des problèmes de limites. D'un côté, les parents ne savent pas mettre des limites. Il y a plusieurs raisons. D'un côté, ce qu'on parle dans notre culture, le déclin de la fonction paternelle, l'oubli du père, ou une déclinaison de la fonction paternelle. Mais il y a quelque chose de plus spécifique à l'Uruguay. C'est peut-être les effets de la dictature dont nous avons souffert. Peut-être à un niveau inconscient. Il peut qu'il soit transmis une crainte d'être autoritaire, d'exercer une asymétrie qui soutient la différence des générations et qui marque le fait qu'il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire, qu'il doit attendre, qu'il n'a pas accès aux mêmes choses auxquelles les adultes ont accès. Des choses concrètes. Si l'enfant a accès à tout du monde des parents, comme s'il agissait d'une espèce de grande scène primitive partagée. Ou alors, est-ce que toute la famille va se coucher à la même heure, en même temps, sans discrimination? L'enfant peut-il tolérer d'aller en premier dans le lit et qu'il y ait ensuite un moment de rencontre pour privilégier pour les parents? C'est un thème éminemment culturel, parce qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais de quelque chose qui s'observe très souvent. Je me suis interrogé à ce sujet, et on peut penser qu'il s'agit d'un effet collatéral lié au passé difficile que nous avons vécu avec un gouvernement totalitaire, autoritaire, et d'une peur d'être identifié à un père autoritaire. Beaucoup d'hommes disent « je suis l'ami de mon fils, je ne suis pas le père ». Il faut trouver cette phrase pour la travailler avec les pères. Elle a à voir avec la représentation de la parentalité. Il y a des pères qui sont fiers de dire « je suis l'ami plus que le père ». Il y a une autre difficulté qui empêche les parents à poser des limites, c'est l'idéal qui veut que l'on permette aux enfants de développer leurs compétences au maximum. De là, l'idée que l'on met des limites, si on met des limites, on briderait quelque chose de la spontanéité de l'enfant qui fait sa personnalité. Parce que l'enfant doit être fort, puisque le futur est incertain. Ce thème déclenche, à mon avis, une explosion temporelle. Peut-être à cause du passé, je ne peux pas occuper en tant que père ou mère cette position tierce qui exige de poser des limites à cause de ce passé autoritaire, mais je ne peux pas aussi faire à cause de cette peur du futur, de ce monde qui change beaucoup, parce que je dois donner à mon enfant cette personnalité forte. Alors il s'affronte à moi. C'est une bonne chose, parce que cela veut dire qu'il sera fort. Cette confrontation temporelle est intéressante pour penser les facteurs culturels. Les effets inconscients de la dictature sont une particularité culturelle de notre société, de nos sociétés latino-américaines. Ce dont vous parlez, c'est aussi une notion d'incertitude. Peut-on aussi penser cela comme une conséquence sur la manière dont on donne des soins aux bébés? C'est un thème passionnant, celui des représentations de la parentalité. Les parents sont moins sûrs d'eux qu'avant. Il y a un principe d'incertitude qui a à voir avec la représentation du monde. Parfois, les psychanalystes oublient cela. Les parents ont une représentation du monde. Cette représentation tend vers le futur. Le monde est changeant, incertain, complexe. Des choses nous échappent. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. C'est propre au postmodernisme. À l'époque moderne, on avait une représentation d'un futur ouvert, totalement prévisible. On obtient bien cela dans l'architecture. Il y a en Uruguay, en France, des exemples de cette architecture solide. Des édifices qui ont été construits pour être éternels. De la même manière, il y a des emplois qui sont éternels. Il y a un dramaturge qui disait « Si je travaille dans une banque, je ne perdrai jamais mon emploi ». Il y a un dramaturge moderne uruguayen qui a écrit une pièce qui s'appelle « Mon fils le docteur ». Si mon fils est médecin, la famille est sauvée, parce qu'un médecin a du travail et que cette profession donne de la sécurité. Cette incertitude déloge les parents de leur position de savoir et peut les amener à se réfugier grâce aux nouvelles technologies. On voit des parents fascinés par toutes les informations auxquelles ils peuvent avoir accès sur Internet. Pour être à la mode, il faut utiliser une sucette de telle façon, un marcheur électronique, parce qu'il stimule l'enfant d'un point de vue cognitif. Tout cela, dans la classe moyenne, moyenne haute uruguayenne, est un grand thème de travail. Un grand thème de travail. J'ai observé des consultations thérapeutiques, des parents qui venaient avec des petites chaises, avec des moteurs. Et il y avait un petit moteur, il suffisait d'appuyer sur un bouton et le siège bougeait à différents rythmes. La vitesse minimum, moi, ça m'énervait. Et lui, le bébé, il avait les yeux écarquillés, il paraissait détendu. Ça, c'est un des fruits de cette pathologie, de cette incertitude dont nous sommes en train de parler, et qui amène les parents à se réfugier dans un savoir qui provient de supposées connaissances scientifiques. Et là, je pense que les psychanalystes, on doit beaucoup lire les sociologues et les anthropologues, et c'est très important.
Merci beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup. Muchas gracias.